Globe de la presse, un nouveau rendez-vous sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers cette émission. Michel Tomega est à la commande technique. Tout près de lui, Jiro Akucha qui s'occupe de la mise en ligne. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïbou. Les radios partenaires qui reprennent Club de la presse sont Radio Lumière à Anéhor, Radio La Paix à Atakpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Émission accessible également sur Facebook, YouTube et canalfm.com. Autour de la table ce jeudi, Magloire Teko du journal Flambeau des démocrates. Bonjour Magloire.
Bonjour à toi Fousseni, bonjour à nos amis techniciens derrière la belle vitrée. Bonjour à nos fidèles auditeurs qui nous suivent au quotidien sur Club de la presse et bon repos également à Sasgao.
Flambeau des démocrates n'est pas dans les kiosques ce matin. Il y a une raison à ça?
Bien entendu, vous savez que c'est une tradition au niveau de la rédaction du journal Flambeau des démocrates d'observer une pause d'un mois, ce qui coûte généralement de la fin d'une année, enfin le premier mois qui coule au niveau de la nouvelle année, on reste à la pause. Et quand on reprend, vous savez que c'est un peu à l'image d'une machine turbo. C'est voilà. Parti pour toute la ligne.
Se requinquer et reprendre de plus belle.
Absolument.
D'accord. Jean Legrand Polorigné du journal Canal D. Bonjour Jean.
Bonjour Fousseni, bonjour aux conférences studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM et aux techniciens derrière la baie vitrée. C'est mon premier club de la presse de l'année. Je ne vais pas déroger à la coutume de présenter mes meilleurs voeux. À tous ceux qui nous écoutent et à toi également. Moi, je demande vraiment que la grâce divine nous accompagne tous, parce que quand la grâce divine est avec vous, je sais que tout le reste va passer comme sur des roulettes, et j'invite chacun de nous à prendre de bonnes décisions pour cette année 2023, parce que il ne sert à rien de souhaiter la santé à quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé, qui ne mange pas ce qu'il faut, qui ne fait pas le sport. On ne peut pas souhaiter la réussite et l'abondance à un paresseux. Donc vraiment, à chacun vraiment de prendre les décisions qu'il faut pour que l'année soit bonne, parce que c'est à nos résolutions que répondra le succès. Je vais saisir l'occasion pour également présenter mes condoléances à une personne chère à moi. Il s'agit du pasteur Jeff Simdinatom. Pour ceux qui le connaissent, il est l'un des artisans du sommet global du leadership qui se tient à Lomé au mois d'octobre chaque année. Il a perdu son épouse le 6 janvier dernier à l'âge de 37 ans. La veillée, c'est demain, et l'enterrement, c'est samedi. Donc, qu'il reçoive à travers ces quelques mots mes condoléances les plus attristées. Et elles sont également adressées à toute sa famille et à sa communauté religieuse.
Les condoléances du club de la presse également. Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à toi, bonjour à nos confrères ici présents et bonjour Canal FM.
Merci de votre présence sur ce plateau. Le débat démarre dans un instant. Nous allons démarrer aujourd'hui avec un fait de société. Il vous souvient que début novembre passé, la BCAO, Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avait diffusé un communiqué rappelant à l'ordre tous ceux qui refusent ces billets et pièces de monnaie usées dans les transactions. Elle a aussi rappelé que cette pratique est punie par la loi. Eh bien, plusieurs personnes nous ont signalé que, en dépit de ce rappel à l'ordre, la pratique continue de plus belle dans certains quartiers du Grand Lomé. La majorité des plaintes nous sont venues du quartier Agwezongo, où clients et acheteurs n'acceptent que l'argent neuf dans les échanges. Et quand la pièce de monnaie est un tout petit peu limée ou c'est un billet déchiré soutenu par un adhésif, le refus de les accepter est catégorique et cela crée souvent des bagarres entre clients et vendeurs. Nous avons ici le devoir de rappeler tous ces acteurs à l'ordre. Alors, Michel Tchadja, est-ce que cette attitude des gens qui continuent de refuser ces monnaies, vous ne trouvez pas ça bizarre? Refuser de l'argent qu'on n'a jamais créé?
Non, je ne trouve pas ça bizarre, mais ça fait partie de l'ignorance. Mmh. En fait, c'est l'ignorance qui conduit à ça, parce que au-delà de tout, la sensibilisation qui est faite pour demander aux gens de recevoir les billets déchirés ou les pièces abîmées ou limées, les gens, certains ne sont pas au courant. Mmh. Et même s'ils sont au courant, certains s'entêtent. Ils veulent avoir quand même des pièces plus ou moins acceptables. Mmh. Alors que, comme tu l'as dit, nul n'a fabriqué la monnaie. Nous l'utilisons et il suffit que nous comprenions que ce que la BCAO, si je ne me trompe pas, la BCAO a sorti un communiqué il n'y a pas très longtemps, pour exhorter les gens de prendre donc ces pièces limées ou ces billets déchirés. C'est que ce que je peux demander aujourd'hui, c'est que au-delà du fait que la BCAO demande, exhorte les gens à utiliser sans souci, sans problème, c'est monnaie et billets. Il faut quand même qu'elle voit dans quelle mesure ouvrir peut-être des kiosques pour amener les gens à échanger. Mmh. C'est simple. À Lomé ici, pourquoi ne pas ouvrir deux ou trois, et puis dans les régions où c'est pas dans les villes, les principales villes, ouvrir des kiosques comme ça. Là, le problème ne va pas se poser. Mmh. Parce que dire que oui, prenez, c'est de l'argent qui n'est pas mauvais, mais alors que quand vous allez dans un coin, dans un village où on donne 100 francs à une dame, elle ne sait pas que la BCAO a sorti un communiqué dans ce sens, ça pose problème. Donc, la BCAO doit aller au-delà de ça et peut-être aider les populations à résoudre ce problème-là en amont pour éviter. Parfois, il y a des quiproquos, voire des échauffourées liées donc à l'utilisation de ces monnaies. Voilà.
Alors, il faut peut-être utiliser d'autres moyens pour communiquer. Diffuser un communiqué sur le site de la BCAO, ça ne suffit pas. Peut-être confectionner des spots messages dans les radios. On peut utiliser d'autres moyens, n'est-ce pas?
Évidemment, vous savez, c'est véritablement un fait atypique. Ça fait quand même plusieurs années déjà que ce phénomène-là, nous le vivons. Et d'ailleurs, je me rappelle que nous, au niveau du journal Flambeau des Démocrates, on avait fait un dossier là-dessus. Et aujourd'hui, ça va même au-delà même des billets froissés. Carrément, il y a des gens qui refutent carrément, par exemple, des pièces de monnaie comme les 5 francs, les 10 francs.
Les 250.
Les 250, parce que, entre-temps, selon nos recoupements, il y a des paramètres métaphysiques qui rentrent en jeu. Pour beaucoup de gens, les pièces de 5 francs ou de 10 francs, carrément, ça participe à faire des sacrifices. Et donc, on les refuse. Mmh. Et ça, ce n'est même plus une question de pièces limées. Ou quoi que ce soit. Et donc, aujourd'hui, c'est un fait, comme je l'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, il faut prendre des mesures qu'il faut pour éradiquer cela. Et je crois que faire sortir un communiqué, ça ne suffit pas. Si ça était suffisant, je crois que depuis là, ce phénomène, on ne va plus le vivre comme on le vit. Ça voudra dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on propose comme solution. Vous savez, hier, par exemple, les gens ont tendance à se rendre dans les stations service pour échanger ces pièces, ces billets-là. Mais depuis un moment, je crois que eux aussi, ils semblent carrément s'embarquer dans cette dynamique de rejet, n'est-ce pas, de ces pièces et billets. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils reviennent naturellement aux autorités, je veux dire, et le gouvernement et la BCAO carrément d'entrevoir, n'est-ce pas, des mécanismes pour permettre à ce que, si éventualité il y a, qu'on puisse avoir des mécanismes qu'il faut pour trouver des solutions, c'est-à-dire échanger, comme Michel l'a dit, pourquoi ne pas ouvrir des kiosques dans les différentes villes du pays, au cas où le problème se poserait, bien, le citoyen aura le reflet de se diriger vers ces petits centres-là. Mais, comme vous l'avez dit, évidemment, c'est aussi un problème de communication. Aujourd'hui, combien de Togolais ont cette culture-là, n'est-ce pas, d'aller consulter la page numérique, n'est-ce pas, de la BCA ou du ministère de l'économie et des finances, par exemple. Ils sont rares, même au niveau de la classe élitiste, on n'a pas véritablement cette culture-là. Et donc, je crois que ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est de maximiser la communication autour. Maximiser la communication à travers, par exemple, des spots publicitaires, dans nos différentes langues, mener des opérations de sensibilisation dans le Togo profond, en ville, parce que le message doit atteindre sa cible.
Gongoner dans les marchés, dans les quartiers.
Évidemment, associer aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la décentralisation, par exemple, il faut associer, n'est-ce pas, à cette politique, et les maires, et les CVD, par exemple, et les chefs traditionnels. Je crois que si on le fait comme ça, on pourra toucher au plus vite la cible et ça participerait au mieux, n'est-ce pas, à trouver une solution. Et ne pas surtout oublier également le côté religieux. Je crois que les autorités religieuses jouent un rôle assez important dans la société et ça, on manque toujours de ce reflet-là. C'est-à-dire, quand on a un message important à passer, il ne faudrait pas oublier véritablement les religieux parce que eux, quand ils parlent, que ce soit dans leur église, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les couvents, je crois que ce message-là pénètre beaucoup plus les cibles, les fidèles, que de vouloir passer aussi par les canaux officiels qui sont normalement les canaux recommandés, mais reconnaissant les réalités de nos sociétés, faudrait pas négliger non plus les autorités religieuses.
D'accord. Peut-être préciser que certaines localités du Togo sont exemplaires. Hein, quand on prend par exemple Bassar, Saint-Cancé, bon, quand sans tu problème. Arrives, sans problème, les gens acceptent les monnaies. Ça peut être déchiré n'importe comment.
C'est ça. C'est surtout dans les grandes villes, surtout à Lomé, où on rencontre beaucoup plus ce problème, alors que c'est nous qui sommes les premiers à nous plaindre que la vie, elle est trop chère. Nous prenons sur le coup, n'est-ce pas, de la vie. Et c'est nous qui trouvons également ces artifices-là pour se punir, en fait, en plus.
D'accord. Jean-Legrand Pelorien, il faut rappeler aussi aux différents acteurs que refuser les pièces de monnaie et les billets déchirés est puni par la loi.
Oui, c'est puni par la loi. Mais vous savez, on ne peut pas aujourd'hui circuler dans toute la ville et sanctionner un à un ceux qui refusent les pièces de monnaie et tout. Le problème est parti d'où Magloire l'a tantôt effleuré. Beaucoup ont parlé de la métaphysique. C'est plusieurs leaders religieux qui ont commencé. Je ne dis pas que c'est tous, mais certains, selon leur opinion, les pièces de monnaie, les petites coupures, les petites pièces là, ça sert à maudire, à appauvrir certains. Donc, ce qui fait que, de facto, vous savez que, quoi qu'on dise, l'Africain est fondamentalement très spirituel, il est très religieux. Et donc, ce qu'un leader religieux dit, c'est parole d'évangile pour certains. Et puis, d'office, vous pouvez tout dire. Ce que son leader lui a dit, c'est ce qu'il va croire. C'est à juste titre que, lors de la lutte contre la COVID-19, les gouvernants ont impliqué les leaders religieux dans cette lutte. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut que la CEDEAO reparte de l'origine du problème. Il faut qu'on intègre dans le mécanisme de riposte contre ce problème-là les leaders religieux, en fait. Ces leaders religieux, pour qu'ils puissent essayer de déconstruire les mentalités au sein des populations. Parce que quand quelqu'un a conçu quelque chose, on dit la plus grande arme qu'on a, c'est l'idée. Quand quelqu'un a une idéologie, vous ne pouvez pas la changer, à beau lui parler. Donc il faut aller déconstruire cela. Et c'est à travers la communication, l'intégration avec ces leaders religieux. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui sont dans le domaine social. Pourquoi ne pas approcher ces OSC-là, vraiment faire un petit projet pour que ceux-ci, qui sont peut-être plus en contact avec la population, puissent initier des sensibilisations dans les marchés un peu partout pour que au moins on puisse inverser la tendance. Sinon, à l'allure où nous allons, on ne sait pas ce que ça va donner. Mmh. On ne sait pas, peut-être un jour vous aurez un autre petit billet d'une façon, et puis voilà, on va refuser. Mmh. Et vous n'aurez pas où vous plaindre. Mmh. Voilà, c'est un
D'accord.
peu...
D'accord, merci Jean Le Grand Pelorgny. Depuis un moment aussi, le public dénonce l'émergence d'un style de musique qui va à l'encontre de nos valeurs, des chansons qui font la promotion du sexe en des termes vulgaires. Vous les avez certainement entendues, écoutées. Le public dénonce surtout le silence des acteurs culturels face à cette dérive. Alors, Michel Tchadia, avec ce style de musique en vogue au Togo en ce moment, est-ce que la décence n'est pas en train de quitter le monde culturel?
C'est difficile, mon frère. Tu sais... Il y a des situations que nous vivons dans ce pays et on ne trouve personne pour lutter efficacement contre donc ces situations-là. Notamment la musique dont tu parles, où parfois même on exhibe des parties... Et intime, où il y a des attitudes nauséabondes. Mais bon, parfois sur des chaînes de télévision où, bon, on se demande, est-ce qu'il y a le contrôle? Est-ce que, bon, on se pose beaucoup de questions. Et, ma foi, la gente féminine, nous avons dans ce pays des organisations de la société civile qui protège la gente féminine, et je n'en vois pas beaucoup vraiment aller contre ces chansons-là. Je ne vois pas ces associations-là poser des actes ou bien réclamer disons vouloir saisir les autorités compétentes pour voir dans quel sens on peut interdire ce genre de musique. Parce que si j'ai bonne souvenance, il n'y a pas très longtemps au Gabon, il y a deux ou trois études dont la musique a été interdite. Et rien ne s'est passé, comme quelqu'un le dirait. Donc, je ne sais pas pourquoi on ferme les yeux sur ce genre de situation. Je ne sais pas concrètement cette musique-là, elle nous ajoute quoi. Et bon, j'aime la musique hein, après tout, mais je n'aime pas la musique qui à la limite nous détruit ou détruit la jeunesse. C'est ça. Bon, vous avez bien fait de relever cet aspect de la chose. Je pense que ce que nous disons, ça ne tombe pas. En tout cas, ça tombe dans des oreilles et vivement que qu'on observe ça et là des réactions dans le sens de voir comment régler ce problème.
D'accord, merci Michel. Alors Magloire, tout le monde est libre de chanter, mais est-ce que c'est tout ce qu'on veut qu'on peut dire dans une chanson?
Ah ben non. Voyez-vous, je crois que c'est ce qui manque souvent à beaucoup de jeunes. Parce que en réalité, quand vous voyez un peu les artistes qui sont d'une génération un peu plus vieille que ça, eux, ils ont des tests très propres, des tests instructifs, des tests qui on va dire, louent la vie carrément, donnent des leçons de vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Des tests qui cultivent. Mais aujourd'hui, on fait plus la promotion... de la dépravation, des tests qui véhiculent rien du tout comme message. Mais le paradoxe aussi, c'est que c'est visiblement ce que beaucoup de gens aiment de la jeune génération. Vous allez voir un artiste qui ne chante rien du tout, si ce n'est la dépravation. Mais beaucoup plus, vous allez voir que c'est lui qui sera en vogue. Et je ne veux pas donner de nom, mais tout récemment, le ministre Kokoroko était obligé de taper du poing sur la table en sanctionnant, n'est-ce pas, quelques directeurs d'école qui ont permis à ce que cette musique-là, où on puisse impliquer des jeunes élèves dans ce monde entre guillemets de bassesse. Voyez-vous, c'est en cela que moi je dis, on a beaucoup de travail à faire, enfin beaucoup de choses à faire en Afrique comme travail. Vous savez, on aime faire comme ce qu'on voit dans le monde incidental, alors que nos coutumes, nos cultures, nos réalités ne sont pas les mêmes. En Europe, vous allez voir dans les clips des gens qui se dénudent carrément, ils ont leur culture. C'est-à-dire que chez eux, quelqu'un peut marcher nu dans la rue, mais ce n'est pas ton problème. Il va te dire qu'il est libre de mener sa vie comme il est. Ici, chez nous, c'est qu'il y a les mœurs, on respecte ce qui est un peu mœurs sacrées. Mais ce n'est pas la même chose chez nous. Malheureusement, c'est ça qui se fait. Maintenant, je me dis, ok, les gens le font par méconnaissance. Mais où alors, où sont les autorités qui sont là en tant que gardiens de la société pour veiller, n'est-ce pas, à la régularité des tests? Je sais qu'au Togo, je ne connais pas trop, mais il y a le ministère de la Culture qui doit avoir forcément un démembrement qui veille, n'est-ce pas, à ce genre de situation. Il y a également la HAC. Ne nous trompons pas. Je crois que, de mémoire de journaliste, je sais que la HAC a déjà sorti un communiqué dans ce pays pour interdire, n'est-ce pas, que des tradithérapeutes puissent passer n'importe quel communiqué ou n'importe quel message à travers les canaux officiels des médias,
les radios.
Les radios, voilà. Et pourquoi ne pas le faire également au niveau de la musique? Je sais que la HAC, en tant qu'institution de la République, a droit de regard sur le contenu, n'est-ce pas, de tout message qui passe à travers nos canaux officiels comme médias. Quand on est là, je ne veux pas donner des titres réels ici, mais quand vous écoutez sur nos radios, sur les réseaux sociaux, des chansons officielles, ce n'est pas que quelqu'un a tourné quelque chose en off et fait balancer sur les réseaux sociaux. C'est des chansons réelles qui portent le nom des artistes. Et qu'on accepte facilement que ces chansons-là puissent passer sur nos médias, qui sont après tout aussi des centres d'éducation, je dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et il faudrait absolument que les autorités puissent vite se saisir de ces dossiers-là.
D'accord. Jean Legrand Pellerin, c'est à croire que les jeunes aujourd'hui n'ont plus de sujets sérieux à composer pour leurs chansons.
Vous cynique. C'est vrai. Vous savez, moi j'ai dit qu'aujourd'hui on ne chante plus, on fait du bruit. C'est du bruit que vous écoutez quand vous prenez les sons que aujourd'hui nos artistes font, à part quelques-uns qui sont un peu consciencieux, tout le reste c'est du bruit. Avec l'ère de la mondialisation dans laquelle nous sommes rentrés et l'avènement des réseaux sociaux, vous savez, tout ce qui se passe dans un pays facilement arrive dans nos pays en voie de développement du fait qu'aujourd'hui le monde soit devenu un village planétaire. Mais moi je dis autre chose, quand ces musiques-là, ces sons arrivent chez nous et que ça inspire beaucoup de nos artistes, qu'est-ce qui donne la promotion à nos artistes? C'est les chaînes de radio et c'est les télévisions. Pour abonder dans le sens que Magloire a effleuré tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut laisser nos médias diffuser des sons qui dépravent les mœurs, qui entraînent les jeunes dans la dépravation, dans la drogue, dans la bestialité et tout ce qui va avec? Du moment où nous sommes dit que non, nous voulons préserver nos valeurs. Nous sommes dans un état qui se dit que non, nous ne voulons pas copier ce qui se fait fondamentalement au niveau de l'Occident, mais garder nos valeurs propres à nous. Alors moi je dis que la HAC est interpellée à ce niveau. Il faut qu'on essaie de réguler franchement. Je ne sais pas qu'on trouve un texte qui puisse interdire certaines musiques qui dépravent les mœurs. Parce qu'à cette allure, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Aujourd'hui, on dit que non, les jeunes sont drogués, les jeunes fument. Et il y a beaucoup de dérapages que les jeunes font dans les établissements. Où est-ce que ces jeunes le voient? C'est à la télé. Il capte une chaîne, vous captez une chaîne, c'est une chanson bizarre qui passe. Vous vous demandez, parfois vous passez, vous écoutez des jeunes fredonner des sons, vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là ont des parents à la maison? Ou bien est-ce qu'ils mènent une double vie? À la maison, ils sont anges et dehors, c'est autre chose. Mais ma foi, c'est compliqué. Moi, je dis qu'il faut vraiment que l'État, je veux dire, tape du poing sur la table. Parce qu'à cette allure, vous ne savez pas, d'ici quelques années, la génération que nous avons actuellement, nous aurons des délinquants et un peu de tout. On ne pourra plus gérer. On ne pourra plus gérer. Véritablement, il faut qu'on prenne les mécanismes qu'il faut pour stopper l'hémorragie à travers les médias. Aujourd'hui, on dit que les médias sont le quatrième pouvoir. Le rôle des médias, c'est quoi? Informer, éduquer, divertir. Quelle éducation nos médias donnent à nos élèves, à nos enfants, en diffusant des sons qui, ma foi, avilissent l'être humain qui véhicule de mauvaises pratiques. Il faut que nous reprenions notre rôle de médias. Parce que nous avons pour rôle d'informer et d'éduquer. Dans le divertissement, on peut se divertir, mais dans le bon sens. Mais pas avec des sons, ma foi, qui n'ont rien à voir avec le bon sens et la morale.
D'accord. Alors, nous apprenons à l'instant que l'un des auteurs de ces chansons, en la personne de Kony Gangsta, a annoncé sur une chaîne de télé sa repentance. Il a présenté ses excuses au public. Magloire l'a évoqué à l'instant. C'est l'un de ses spectacles qui a causé des problèmes dans une école dans les Lacs. Michel Tchadja, il est né de nouveau. Il décide aujourd'hui d'aller vers le gospel. Kony Gangsta.
Voilà, le nom même fait peur. C'est-à-dire, notre société doit être bien surveillée. On ne peut pas laisser, si un enfant a été mal éduqué, qu'il ne vienne pas contaminer les enfants, qu'il ne vienne pas saper les efforts des parents, de certains parents qui font l'effort d'éduquer leurs enfants. Vous voyez, vous allez accepter, donner ce nom-là comme ça à votre enfant, ou bien même s'il se donne ce nom, il revient là, mais vous allez le laisser. Non, vous voyez. Et je fais le parallèle avec... de tout ce qui se passe là avec les histoires de semaines culturelles. Nous avons connu des semaines quand nous étions élèves. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous vivez, si vous avez eu la chance de voir comment... Moi, je dis, les responsables du ministère de l'Éducation ont vraiment du pain sur la planche. Parce qu'il faut régler cette affaire de semaines culturelles. Ça dit qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un problème. Ce n'est pas, on dit, c'est l'occasion pour permettre aux jeunes
de se défouler.
Mais attention, ce que semaine culturelle crée dans ce pays, mais c'est vraiment, c'est la seule semaine, mais c'est comme, ils sont en opération commando ou bien formation commando. Ce que les enfants apprennent en 5 jours, lors des semaines culturelles, et ce que ça a comme incidence sur la société, c'est énorme. Si les pédagogues sont là, mais ils n'ont qu'à faire les études pour nous dire. Parce que ce que je vois lors des semaines culturelles, franchement, ça me donne les maux de tête. Vous allez voir des enfants, vous allez demander, mais est-ce que quand ils vont faire tout ça, ils retournent dans la maison des gens, ils ont des parents, ces enfants-là? Et c'est l'occasion, c'est des occasions au cours desquelles ces musiques-là sont consommées sans modération, j'allais dire. Vous voyez? Ces musiques perverses, là, elles sont consommées et sans que les responsables d'établissement ne puissent lever le petit doigt. Vous avez vu ici la dernière fois, il a fallu que cette vidéo-là.
De l'élève.
Dans l'établissement, là, soit visionné pour que ça arrive à un niveau donné et pour qu'on. Sinon. Ça devait passer inaperçu. Et moi, je dis que au-delà des responsables d'éducation qui ont été sanctionnés, la sanction là, je pense que elle est limitée.
Voilà.
Il y a des autorités qui ont organisé ça. Il y a des gens qui sont devant ça, qui ont organisé. Maintenant, on a sanctionné seulement les responsables d'éducation. Moi, je pense que on doit viser aussi plus haut ceux qui les autorités qui ont organisé ça, parce que j'ai écouté beaucoup de choses par rapport à cette vidéo-là. Et donc, il faut vraiment revoir cette affaire de semaine culturelle parce que ça détruit, les 5 jours-là détruisent notre jeunesse. J'avoue que ce n'est pas en un seul lieu, partout. C'est devenu vraiment un objet de... C'est pas... les jeunes... Aujourd'hui, nous sommes en janvier, non?
Oui.
Mais ils ont les yeux rivés sur la... Ça n'arrive pas vite.
La semaine culturelle.
Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire l'année dernière, ils vont rattraper. Ce que quelqu'un a fait, l'autre a vu, il n'a pas pu faire, il veut. Donc, Dieu grâce, si on veut protéger notre pays de demain, parce qu'il sera gouverné par les jeunes d'aujourd'hui, on sait maintenant qu'il faut agir.
D'accord. Sortons du sujet avec Magloire Teko.
Oui, vous savez, je crois que dans ce pays, c'est le général Gnassingbé Eyadema qui disait qu'aucun sacrifice ne serait trop grand s'il s'agit de la jeunesse. Si nous faisons tout ce débat, je crois que c'est l'intérêt beaucoup plus de la jeunesse togolaise, parce que l'avenir même du pays en dépend. Étant nous-mêmes jeunes, on ne va pas quand même accepter qu'on soit, n'est-ce pas, d'une génération qui fera la honte de notre pays dans les années à venir. C'est pour cela que nous avons cette obligation morale, hein, de soigner ces maux qui, si on ne s'y prend pas vite, risquent, n'est-ce pas, de causer beaucoup de dégâts dans notre pays. Aujourd'hui, on parle de la musique, mais je veux vous dire qu'il y a également un phénomène qui, si on ne prend pas garde, va également ronger la jeunesse togolaise. Vous savez que on va dire une mode de photographie qui est en vogue maintenant, c'est les shootings. C'est-à-dire que vous allez en studio photo et il y a un décor qui est implanté et puis on vous fait de belles photos. Ça c'est dans l'ordre normal des choses, c'est l'évolution. Mais est-ce que si je vous dis maintenant que il y a des studios photo de shooting qui ne font que des shootings nus. C'est-à-dire que vous rentrez là-bas, c'est pour faire des photos nues. Vous ne vous habillez pas.
À Lomé.
Et ces gens-là ont des studios photos, des studios photos qui sont là, et ils se permettent de faire de la publicité pour ces studios-là, avec des numéros qui sont là. Et je présume que les plus hautes autorités, ou parmi les autorités du pays, certaines auraient certainement vu un jour un phénomène comme ça. Mais personne ne dit rien. Et c'est ça qui me choque. Parce que vous seriez quelque part en train de mijoter quelque chose qui n'est pas bien pour l'intérêt de la République. On mettrait forcément la main sur vous. Et ça, j'ai foi, j'ai confiance en nos autorités. Mais on ne peut pas me dire que dans mon pays, le Togo, il y a des choses comme ça qui se passent et qu'on ne dise rien. Je suis convaincu que ceux qui doivent savoir le savent. Et pourquoi on n'agit pas? Parce que c'est une bombe à retardement, comme Michel vient de le dire. Si on ne le fait pas, je vous assure, 5 ans, dans 10 ans, on aura une génération qu'on ne pourra plus contenir. C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est une occasion pour nous de l'alerte. Par exemple, toujours à la HAC, moi je l'ai dit, au ministère de la Culture et au ministère de la Sécurité, de la Protection Civile, qu'il y a des phénomènes comme ça qui se passent à Lomé et ils ont besoin, où la balle est dans leur camp, ils n'ont qu'à lancer les enquêtes qu'il faut. Je vous assure qu'on fermera pas moins d'une vingtaine de studios shooting pour ces gens de photos nues, par exemple.
D'accord. Merci à vous tous. Nous bouclons donc ce sujet. Intéressons-nous à présent à la vie de nos communes en partant d'un article paru dans le numéro 129 journal Canal D. Assainissement des caniveaux, la commune d'Aguagnivé 6, mauvais élèves, lit-on à la U de Canal D. Jean Legrand Polorini, c'est votre journal. Pourquoi Aguagnivé est-elle un mauvais élève?
Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que nous mettons l'emphase sur cette commune. Je crois bien que c'est la deuxième fois. Vous savez, depuis l'élection de nos communes, l'État togolais, je veux dire le gouvernement, a cédé un pan de la gestion à ces communes pour que au moins le développement soit fait de façon sectorielle et plus qu'on ait un développement à la base. Et quand on dit aujourd'hui que nous avons érigé des communes, les domaines prioritaires pour ces communes, il y a l'assainissement, il y a l'éducation, il y a la santé, et oui, je crois que c'est presque les trois. Et quand dans une mairie ces petits besoins-là ne sont pas réglés, ma foi, c'est que les élus locaux de cette commune ne font pas leur travail. Ou je vais dire, le maire ne fait pas son travail. Au niveau de la commune d'Agoué 6, et principalement au niveau d'Agoué, au niveau d'Adetikopé, la plupart des caniveaux, ma foi, c'est les ordures que vous allez voir que les gens viennent même déverser à l'intérieur. Et au cours de l'enquête, nous nous sommes approchés de certains révérends qui déclarent que, eux-mêmes, quand les pluies arrivent, ils coupent en même temps leur abonnement au niveau des ramasseurs d'ordures, parce que les égouts sont devenus des ramasseurs automatiques. Quand vous jetez dedans, l'eau prend en même temps. Et tout ceci se passe sous le regard insouciant des autorités communales de Aguagnivé 6. Et vous imaginez tout ce que cela peut engendrer en termes de dommages, en termes de problèmes de santé. Quand on parle d'assainissement, mais il ne faut pas, on ne peut pas dormir. Plusieurs fois, nous avons alerté. Quand nous avons des déchets sauvages, des dépotoirs sauvages, on alerte dessus. Mais on ne comprend pas pourquoi au niveau de cette commune, les égouts sont remplis. Et ceci, c'est à cause du comportement incivique des populations. Mais alors, que fait la commune? Que fait la commune pour régler ce problème-là? On dit à Déticopé. Vous voyez qu'en sortant de Lomé, c'est la commune que vous avez. Mais les égouts, les caniveaux sont remplis. Sont remplis de déchets. Et rien n'est fait. Nous, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les maires font. On dirait que beaucoup sont élus, c'est juste pour attendre les petits sous-là qui viennent s'arranger pour faire des micmacs. Mais sur le terrain concret, on ne les sent pas. On ne les sent pas. L'État fait de son mieux. On a cédé une partie de l'autorité. Mais les gens ne prennent pas d'initiative. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut que les gens réfléchissent pour les prochaines élections locales. Qui sont ceux qu'on va positionner comme conseiller local et voir des maires. Il faut voir les maires qui sont innovants. Parce que dans tout ce bataclan qu'on a mis pour cette première édition, ma foi, des gens qui ne font rien. Ils ne font rien. Ils sont là seulement pour faire les réunions, s'asseoir, comment gérer les budgets, et puis chacun prend sa part. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les gens prennent à cœur les problèmes des populations. L'État mobilise beaucoup de moyens, mais les maires ne sont pas innovants pour quand même apporter un plus aux populations. On se demande même à quoi ça a servi qu'on donne un certain pouvoir à certaines personnes. Il faut que vraiment la commune d'Agon-Idécif essaie de se remettre en cause, d'arranger ce qu'il faut arranger. Je précise que cet article a été fait dans le cadre de l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement, dont je suis membre. Et nous nous sommes donné pour mission d'alerter les autorités sur tous les problèmes environnementaux que nous allons remarquer sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique que cet article a été fait pour interpeller vraiment la commune d'Agon-Ivesis a vraiment remonté les bretelles.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Michel Tchadia, le journal Canal D soulève un problème important. Est-ce qu'il n'y a pas une faille dans le contrôle des actions de ces communes par l'autorité de tutelle?
Mais faille comment?
Elle devrait mettre une équipe peut-être pour circuler, voir le travail que les communes font.
S'il y a des faits à relever. Les communes sont bien organisées. Et que, en principe, ces problèmes-là devaient être réglés. Le problème dont parle Jean, je pense que c'est un problème qui n'est pas spécifique à la commune
Agon-Ivesis.
On le voit un peu partout. Dans d'autres communes également, il y a des égouts un peu partout. Il y a parfois même, ce n'est même pas des caniveaux qui ne sont même pas fermés avec des risques pour les enfants, même les adultes. Et bon, moi je me dis que nous sommes en apprentissage et que ces maires-là peut-être n'ont pas encore non seulement les moyens pour réaliser les travaux dans leur en tout cas localité. Mais aussi, au-delà des moyens, il faut aussi la volonté politique. Je vous ai dit que moi, je suis contre les émiettements des communes. Moi, je
ça, sûr, ça, c'est clair.
Ça, moi, je n'ai jamais aimé ça. c'est comme ça et on fait. On doit
fait avec.
Oui, sinon, quand vous voyez comment les mairies, là, non, moi, je dis que d'aucuns disent que oui, on a rapproché les mairies des gens, on va faire la légalisation à côté, les mariages, ok. Mais au-delà de ça, l'organisation même des communes, vraiment, je ne dis pas grand chose parce que je me dis que on est sur le chemin de l'apprentissage. Peut-être 6 ans après, ceux qui vont revenir, peut-être vont
essayer de s'améliorer.
Je ne pense pas que ils ont totalement les moyens et la volonté aussi de faire ces travaux-là comme cela se doit. Il va falloir un peu du temps pour que, en tout cas, ceux qui vont vouloir après cette mandature-là, ceux qui vont vouloir venir, peut-être ils vont venir avec d'autres idées aussi, de nouvelles idées, parce que quand vous voyez, vous savez, dans les mairies, au-delà du boucan qui est fait, telle mère, bon, on sait comment, mais les activités en tant que telles, moi je n'observe pas grand chose, hein,
d'accord,
honnêtement.
D'accord. Alors, Magloire Teko,
il y a aussi ce défi en termes de financement auquel ces communes sont confrontées. Ça aussi, ça peut être un frein au développement de nos localités.
Oui, ça c'est clair. Et puis, nous l'avons toujours dit ici. Vous avez vu que ces derniers temps, les maires se sont beaucoup plaints. On a senti cette aspiration au niveau des maires. Lorsqu'il s'est agi à un moment donné de confier un peu la gestion d'un certain fonds logiquement destiné aux mairies, je crois, à l'ANADEB. Et ça a posé beaucoup de problèmes. Les maires ont crié, les conseillers municipaux ont crié. Ben, ça voudra dire en réalité qu'il y a un problème de financement. Et donc, pour eux, ce n'est pas tout à fait normal qu'au même moment qu'ils crient qu'ils n'ont pas de moyens, que les moyens qui sont là, qui doivent être destinés à ces communes-là, soient gérés de pair avec l'ANADEP. Mais entre-temps, les plus hautes autorités se sont expliquées sur cette approche-là, et j'espère qu'ils se sont compris à la fin. Maintenant, manque de financement, oui, d'accord, on est devant le fait accompli, on fait comment? Parce que vous êtes déjà élus. On ne va pas se plaindre éternellement qu'on n'a pas les moyens et donc on ne va pas innover. Et Jean a bien fait de le dire tout à l'heure qu'on a besoin des maires innovants. C'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens, certes, mais vous devez avoir cette capacité-là d'innover. Et quand je prends par exemple, je crois que ça doit être la mairie Golf 1 qui, j'apprenais l'autre fois qu'ils ont essayé de confier ce côté de gestion des ordures
à une structure
privée qui gère, et ça va être sous la forme, je crois, d'un partenariat public-privé. Et je crois que c'est des modèles comme ça qu'on peut essayer. Vous n'avez pas les moyens, mais vous essayez de gérer ça avec un privé et vous allez vous entendre forcément sur la modalité. Et donc il faudrait, pendant qu'on n'a pas trop les moyens, faudrait surfer sur ces pistes-là qui peuvent nous permettre quand même de maintenir au propre nos cadres de vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? On peut pas, parce que on n'a pas les moyens, maintenir nos environnements assez sales, assez malpropres. Et ça, finalement, c'est nous les hommes qui seront finalement les premières victimes de cette situation. Maintenant, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui ont les moyens, qui s'essaient un peu, je voudrais vraiment les féliciter et au même moment les encourager à mieux faire. Parce que vous savez, il y a plusieurs communes aujourd'hui, surtout les communes urbaines. Lorsqu'il s'agit de faire des curages de caniveau, on le fait, c'est très bien. Mais Michel l'a dit tout à l'heure, pour beaucoup de cas, on finit de faire les curages, vous voyez les caniveaux ouverts, on ne prend plus soin de les fermer.
Des ordures à côté.
Et les immondices qu'on sort des caniveaux, les camions bernes qui sont chargés de ces immondices-là pour les évacuer vers les extrémités de la ville, on ne prend pas soin souvent de couvrir ces camions bernes, ce qui fait que les immondices,
avant de les ramasser même, oui, parfois c'est les immondices qu'on sort des égouts,
ça se retrouve,
ça reste sur
les bordures, les trottoirs,
pendant une semaine.
C'est ça, et avant même qu'on ne les ramasse.
À côté, les bonnes dames vendent
de la nourriture. Voilà. Et ça, c'est sûr.
Si entre-temps, il n'y a eu plus, ça se
dit. Parce qu'au même moment que les immondices sont versés sur les trottoirs sans être ramassés, 3 jours, 4 jours, une semaine, mais les bonnes dames vendent toujours, font leur petit commerce, les mouches se posent sur ces immondices-là et vont faire un petit tour sur les aliments qu'on vend de l'autre côté. Et comme je l'ai dit, c'est toujours l'homme qui se retrouvera à la fin la victime. Et l'autre aspect que je souligne, c'est que vous allez voir que tout le long du passage du camion, par exemple, on déverse ces immondices-là sur le goudron, alors que l'objectif c'était de rendre propre les infrastructures routières qu'on a. À quoi ça sert, n'est-ce pas, de faire cette œuvre utile là, si ce n'est de les reverser encore par terre sur le goudron un peu plus loin. C'est pour cela que j'ai dit, il faut les encourager, c'est du bon ce qu'ils font, mais également essayer de les amener à mieux faire.
À mieux faire, d'accord. Un autre message dans cette émission, le Conseil des ministres a évoqué hier le renforcement du mécanisme de lutte contre les substances psychoactives au Togo. le ministre du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a présenté une communication à travers laquelle elle a démontré la nécessité d'initier une réflexion concertée avec les acteurs de la société civile et tous les autres acteurs institutionnels déjà engagés sur ce front pour définir une stratégie destinée à empêcher l'accès des jeunes aux substances toxiques et nocives au Togo. Alors, Jean Legrand Polorgny, si le ministre de la Jeunesse remet ce sujet sur la table, le phénomène a peut-être pris une certaine proportion.
Oui, je vous dis, quand on parle de drogue en milieu scolaire, il faut laisser ce qu'on disait avant. Actuellement, la plupart des établissements privés à Lomé, mais la drogue prend de l'ampleur. Vous avez beaucoup d'élèves qui prennent ces substances psychoactives-là et qui font de n'importe quoi. Beaucoup se sont étonnés du fait qu'on ait sanctionné l'élève
de Kara.
Oui, de Kara.
Oui.
Mais ce que beaucoup ne savent pas, selon nos informations, c'est un récidiviste. Cet élève a fait de la prison l'année dernière.
Ah bon?
Et pour quelle raison il a fait la prison? Parce qu'il consomme de la drogue avec plusieurs autres élèves.
Ah.
C'est ce que beaucoup n'ont pas compris, mais c'est un cas. C'est un cas, cet enfant-là. C'est pour ça que la DRUK n'a pas voulu être tendre avec lui. Et selon les informations, quand ils le font, c'est un groupe avec d'autres, ils donnent certains bonbons sucrés là aux filles et ils couchent avec les filles. Et c'est ce qu'ils font. Et je crois que l'État est en train de comprendre que quand on laisse, on a un laisser-aller pendant un temps, ce que nous allons avoir d'ici quelques années, comme nous l'avons dit tantôt, je ne sais pas si on pourra supporter. Parce qu'aujourd'hui, nos élèves, je me dis que c'est à l'école même que les enfants se gâtent le plus. Vous éduquez bien votre enfant, mais quand il sort dehors, c'est des conneries. Vous ne savez pas qui il rencontre, qui sont ses fréquentations. Et quand il revient à la maison, vous avez plusieurs parents qui sont plaints que non, nous avons inscrit notre enfant dans tel établissement. Et à la fin de l'année, à un moment donné, vous voyez que le résultat de l'enfant baisse. L'enfant baisse, pourquoi le résultat baisse? Et de fil en aiguille, on se rend compte que non, c'est un enfant qui fait compagnie avec d'autres enfants drogués. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de comprendre. Il faut qu'on ait vraiment, comme la ministre l'a dit dans sa communication, un mécanisme, comment de façon concertée, ils vont lutter avec la société civile pour que vraiment, cette affaire de drogue-là, on essaie de temporiser ça. Parce que vous avez plusieurs villes, plusieurs pays aujourd'hui qui n'ont pas très tôt pris la mesure de la chose. Et dans ces villes aujourd'hui, la drogue, ça pullule comme des petits pains.
D'accord. Michel Tchadja.
Oui, comme Jean le disait tantôt, quand vous menez une enquête auprès des jeunes élèves, vous allez vous rendre compte que la première fois que certains ont goûté à la drogue, c'est lors des semaines culturelles. Puisque c'est les 5 jours-là, c'est les jours de fête, où pour certains, mais c'est-à-dire que c'est à se défouler au maximum avec tout ce que vous savez. Et c'est pourquoi, quand j'ai écouté hier en conseil des ministres, on parlait des drogues, j'ai dit, mais je me disais, est-ce qu'on va comprendre que à partir même des écoles, il faut faire déjà quelque chose? Jean parlait des écoles, la plupart des écoles privées, mais le public également. Public également. Ce qui se passe, mais et je le disais, si on veut protéger notre pays de demain, c'est aujourd'hui. Parce que ça a déjà commencé. Le cas de l'élève dont vous parlez. Vous voyez, vous avez vu comment dans la vidéo, comment il se comportait. Mais lui, c'est un élève ça. Quand il sera étudiant, mais les professeurs vont sortir des amphis. C'est un élève. Vous voyez comment il est à l'aise. Et en parlant, et ça veut dire que quand il sera étudiant, mais ma foi, c'est autre chose. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Dans les écoles, les écoles primaires, les collèges et lycées, il faut être ferme. Voire même mettre des équipes d'enquête pour repérer très tôt ces élèves qui ont des connexions avec des réseaux pour la consommation de cette drogue-là. Et ça détruit vraiment notre jeunesse. Donc, disons que si l'État lui-même ne s'implique pas, parce que Jean le disait, vous éduquez bien votre enfant, mais sur le chemin de l'école, vous ne savez pas qui croise en allant comme en retournant. Mm. Et à l'école même, avec qui il échange, vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut agir dans les écoles.
Il faut agir.
Oui.
D'accord. Magla Teko.
Non, je crois que lorsque j'ai lu également ce passage-là, n'est-ce pas, dans le conseil, dans le communiqué sanctionnant le conseil des ministres d'hier, le premier réflexe que j'ai, c'est que je me suis posé une question, est-ce à dire que l'autorité s'est rendue compte qu'on a failli quelque part? Parce que la lutte contre la drogue au Togo, c'est pas aujourd'hui, hein. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour lutter efficacement contre le trafic, la consommation de la drogue au Togo. Mais si aujourd'hui, plusieurs années déjà, avec tous ces mécanismes-là, on se rend compte qu'il faut innover, il faut adopter encore d'autres mécanismes pour pouvoir participer au mieux à cette lutte. Est-ce à dire que quelque part on a failli, enfin on a compris qu'il y a eu faillite quelque part? Bon, ça c'est une question, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes tous d'accord aujourd'hui. On le disait tantôt, la jeunesse doit être véritablement entretenue dans de meilleures conditions pour le bien du pays. Et donc, tout ce qui sortira comme approche, comme mécanisme, évidemment, moi j'approuve. J'approuve. Mais faisant un parallèle justement à ce que mon confrère Jean venait de dire tantôt par rapport à l'élève qui a été sanctionné à Kara. Vous savez, on est tous pour la discipline dans les écoles. Mais l'un de moi, l'idée est de défendre ce jeune. Mais vous avez, depuis hier, il y a une certaine rumeur qui circule sur les réseaux sociaux faisant croire que l'enfant est un dealer, est un récidiviste. Mais attention, nous sommes des journalistes, on va pas tomber dans les pieds des réseaux sociaux. Nulle part, toutes les notes que nous avons lues sanctionnant cet élève, on a mentionné nulle part qu'il est un dealer, qu'il est un récidiviste. Les autres notes se sont juste appuyées sur la décision prise par la direction régionale de Kara. Maintenant, qui est l'auteur de ce qui circule sur les réseaux sociaux qu'on ne connaît pas? C'est très simple que quelqu'un rentre dans sa chambre, écrit quelque chose et balance sur les réseaux sociaux. Mais nous, journalistes, on ne va pas reprendre. Je suis désolé. Mais en même temps, ce que ces gens-là font, peut-être, qui est très dangereux, c'est que on veut ouvrir une boîte de Pandore qui risque de se refermer sur ces mêmes personnes. Parce qu'on nous fait croire qu'en mars-avril 2021, le jeune avait déjà fait la prison. Et la cause était quoi? Selon ce que ces rumeurs disent, que le jeune faisait partie d'un gang qui fabriquait des bonbons avec de la drogue qu'on donnait aux jeunes filles et pour pouvoir coucher avec elles. Vous voyez un peu la gravité de l'acte? Et qu'on nous informe aujourd'hui, un an après, que ce jeune-là a été emprisonné à Kara et relâché juste parce que il devrait passer les examens. Vous pensez que c'est normal que les sentiments puissent se primer sur la loi de l'État? C'est pour cela que je dis, même si c'est vrai, ça voudra dire que ceux qui ressortent cet aspect dans ce dossier-ci se créent ou se tendent un piège où ils risquent de retomber dans les mêmes pieds. Parce que quand on parle de la drogue dans les établissements, c'est extrêmement grave. Et je ne crois pas que ça soit du ressort de la direction régionale de Kara de traiter ce dossier. C'est carrément du ressort du gouvernement. Et quand on connaît la rigueur du professeur Kokoroko, en mars-avril 2001, il était déjà aux affaires. Connaissant sa rigueur, vous pensez qu'il soit au courant de cette affaire et qu'il soit tué? On l'aurait déjà entendu parler de cette affaire. C'est pour ça que je dis, oui, nous sommes d'accord, le petit, il a gaffé, on va le punir, mais est-ce à dire qu'il faut chercher tous les artifices possibles pour le jeter à la verdict populaire? Il y a un adage de chez nous qui dit, on ne va pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il a gaffé, oui, d'accord, mais c'est un adolescent. Ce que la direction régionale de Kara a fait, je peux comprendre, mais que les autres directions régionales, par souci de solidarité, s'allient à eux pour faire ce qu'ils sont en train de faire à l'enfant, je dis, il y a un danger devant. Parce que n'oublions pas, quand on punit l'enfant, c'est un message qu'on lui envoie. C'est pour lui dire que demain, quand tu vas t'y prendre, fais gaffe. Mais quand ça prend l'allure d'un acharnement, je vous dis, le petit va se prendre finalement comme victime d'un acharnement. Et quand on dit Kara, je dis Kara n'est pas aussi trop loin de la région des savanes. Vous savez, la période que traverse notre pays, c'est ce genre de jeunes révoltés que ces amis, que je ne veux pas citer ici, ces gens, c'est la lugubre dans leurs intentions essaient de récupérer. C'est pour ça qu'il dit cette affaire, il faut la gérer avec délicatesse. Punissons l'enfant comme on veut, mais n'essayons pas de le plomber de plus avec cette histoire de drogue. Parce que je dis, si cette histoire est vraie, je suis sûr que la direction régionale de Kara et tous ceux qui ont mis l'enfant en prison et qui l'ont relâché parce qu'il faut passer l'examen, ils sont fautifs. Et il faut qu'ils répondent de leurs actes. Parce que quand un enfant fait commettre de drogue dans un établissement, qui plus est, pour donner aux jeunes filles, pour coucher avec eux, c'est extrêmement grave. Et on ne va pas laisser cet enfant parce qu'il devrait passer un examen. C'est grave plus que ça.
D'accord. Nous espérons qu'il y aura une école qui pourra donner une seconde chance à cet enfant pour qu'il puisse passer son examen.
Bon, au-delà de tout, le message est passé.
Oui, Michel.
C'est-à-dire, le message est passé que ces élèves-là qui se croient tout permis, que ça ne va pas se passer comme ça. Le message même déjà est suffisant à l'endroit des autres, en tout cas de ses collègues,
camarades,
sur toute l'étendue du territoire national. Ceux qui vont tenter de se comporter de la sorte, ils savent désormais le sort qui leur est réservé. Donc, pour finir, je voulais aussi dire que par rapport aux mesures prises par le gouvernement, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour vraiment que la lutte contre la consommation de la drogue soit accentuée.
Surtout
les élèves.
Il y a une drogue.
Il y a un auditeur qui se demande est-ce que les élèves amènent les drogues au pays.
Voilà. C'est ça. Ils ont retrouvé la drogue au pays.
Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, la drogue rentre de quelque part. Voilà. Donc, et vivement que l'État puisse
renforcer le contrôle
à ce niveau
des frontières.
Pour empêcher que les adolescents, ces drogues-là puissent tomber dans les mains des adolescents qui font, qui peuvent faire un usage qui ne sera pas, en tout cas, intéressant pour leur avenir.
Alors, puisque nous parlons des drogues, il existe une substance psychoactive dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi dangereuse que d'autres drogues. C'est la chicha qui est en consommation libre au Togo. Il y a certains pays comme le Cameroun qui l'ont interdit carrément de leur territoire. Vivement que le Togo emboîte le pas à ces pays pour qu'on interdise l'importation et puis la consommation de cette drogue. Alors,
si vous voulez, on peut en parler.
Est-ce que vous savez,
Michel,
cette drogue dont vous parlez, j'en vois les gens consommer dans
les
restaurants.
Oui, c'est
à cœur joie,
les filles même, avec plaisir même, on se donne, quelqu'un tire.
Et puis c'est le même tube.
C'est le même tube, effectivement.
Ils se partagent, ils sont très à l'aise. Un jour, j'étais quelque part, j'ai regardé les gens là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais est-ce que une drogue doit être qualifiée de douce,
voilà,
une drogue est une drogue. C'est-à-dire que si on veut interdire, on doit faire en dehors des prescriptions médicales, puisque ça me
convient. Les médicaments, même à la base, c'est des drogues,
mais on doit interdire toutes ces formes de drogue là, parce que on ne peut pas dire que celle-là peut passer. Et certains vont passer par ce canal pour consommer même les drogues interdites. Ils vont masquer cela. Parce que vous savez, l'homme, quand on interdit quelque chose, il multiplie
d'autres tactiques.
Voilà. Il ne manque pas d'ingéniosité pour passer outre et consommer. Donc, comme tu le dis, c'est aux autorités de voir. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions. C'est aux autorités de voir ce qu'il faut faire concrètement pour protéger les populations en général et surtout les adolescents, les élèves dans les écoles.
D'accord.
Non, je crois que c'est ce que je voulais dire en fait. Heureusement que le Conseil des ministres nous a informé que très prochainement il va y avoir une démarche comme cela de sensibilisation. Je crois qu'ils doivent toucher beaucoup plus. Je les vois souvent au niveau des bars, des bistrots où c'est carrément institué, mais je crois qu'ils doivent mener ce genre d'action.
Donc même récemment à la quinzaine commerciale, j'ai vu un stand qui était consacré carrément aux instruments.
Le problème c'est qu'on se rend pas compte de la gravité de la compose. On se dit que c'est la monde, tous les jeunes s'y adonnent. Et le danger c'est que c'est le même tube que au moins 5 ou 6 têtes se partagent, alors qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de maladies qu'on peut
se transmettre
par voie fécale et tout. Oui, donc je crois que pour raison de santé publique, on doit également faire une fixation sur cet aspect-là lorsqu'on va démarrer les actions, les nouveaux mécanismes qu'il faut entreprendre. Sans oublier également le tramadol dont on parle toujours. Mmh. Le tramadol, il est bien utilisé et ça contribue également à foirer carrément une partie de la jeunesse togolaise.
Mmh, d'accord, merci. C'est le moment d'observer une pause commerciale et on revient. 93.5. Nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Et vous le savez, c'est le moment des appels. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Monsieur, bonjour.
C'est monsieur?
Monsieur Gérard.
Monsieur Gérard.
On vous écoute. Le plateau.
Merci, bonjour.
Merci. Concernant les pièces et billets de banque utilisées, moi je pense qu'après cette sortie, c'est le ministère des Finances qui devait prendre le devant. Puisque depuis plusieurs mois, 4-5 mois, le Bénin continue jusqu'à ce jour et ce matin encore de faire un communiqué à la télévision dans toutes les langues pour que les gens puissent... Et quand vous allez aujourd'hui, les pièces de 250 et même ce qu'on parle comme... Les pièces de 5 francs sont aujourd'hui prises. Parce que il y a des actions qui ont été déjà menées même par l'autorité de la police et les gens se sont plaints aujourd'hui. Je crois que la forme est trouvée et voilà. Donc moi j'en appelle beaucoup plus à l'autorité de l'État pour pouvoir le faire. Et vous avez donné aussi beaucoup de d'idées là-dessus dont ils doivent se servir. Bien, concernant le côté de la culture. On a vu des artistes qui ont chanté et devant des ministres de la culture à Miss Togo, il y a des gens qui ont chanté Tchalele Ponagu et Sibenia Vikicha et les gens ont applaudi dans cette salle. Après, rien n'a été dit. Où est l'autorité de l'État? Vous avez vu Paul Biya a interdit Coller la Petite et ça n'a pas fait de tabac au niveau du Cameroun et ça a été respecté. Et donc, et quand on parle aussi de l'ancienne et jeune génération, moi je ne pense pas que c'est ça. Il y a question d'éducation. Vous allez voir que Almond chante autre, elle ne chante pas le sexe. Elle Santino ne chante pas le sexe. Papou n'a pas chanté sexe. Et Julien n'a pas chanté sexe. Mais ils sont pourtant appréciés par la population. Donc, je pense que, il y a certains, quand même, et Michel Tchadja l'a dit, des artistes qui, excusez-moi, on va le dire, qui ont été mal éduqués et ou bien qui n'ont pas voulu être et accepter ce qu'on leur dit et veulent se porter et il va falloir enfin. Donc, je pense que là, vous avez tout dit, et il y a l'autorité de l'État à laquelle nous devons en appeler. D'accord. Et pour terminer, c'est par rapport à ce jeune. Oui. Vous allez voir que la vidéo qui a été tournée, ce jeune, il n'est pas le seul à se foutre de l'enseignant. Il y a un bruit dans une salle, c'est-à-dire que nous, on s'en fout. Il y a un bruit dans une salle, ça veut dire que tous les élèves, pratiquement, étaient dans le désordre dans la classe. Et c'est ce que lui, il a voulu en faire comme si c'était un trophée. Alors, cet enseignant-là, où est son autorité? Pourquoi, dans cette salle, est-ce que ça se passe souvent vraiment? Il faut faire cette enquête-là. Et si c'est un enseignant qui n'a pas d'autorité, ben, il faut le changer ou bien le redresser. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'on puisse en faire. Et faisons aussi d'économie, comme Magloa l'a dit. Je pense que ça n'a pas été officiel concernant cette affaire de prison. Nous n'allons pas continuer donc à encenser un enfant. Mais si cet enfant n'a pas été accepté dans aucune école officielle, il peut aller dans une école privée. Mais si on le refuse partout, moi, cet enfant-là, je vais le coacher, je vais l'entretenir. Et dans 3 ans, vous allez voir ce qu'il va devenir. Il sera plus riche que ceux qui sont encore sur les bancs.
D'accord. Merci, Monsieur Girard. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Allô?
C'est Monsieur Richard, depuis Copenhagen.
Ok, on vous écoute.
Ouais, bonjour le plateau. Bonjour, grand frère. Tadja.
Bonjour.
Il a répondu, allez-y.
Oui, je ne veux pas jeter l'anthème sur les professeurs. Je pense que c'est nous les parents qui ont défaillé à l'éducation de nos enfants. Ce qui se passe au Togo, c'est nous les parents. Parce qu'en voyant même le Togo, la manière dont il est devenu frustré, dans la rue, patati patata, on t'insulte. les gens se mettent, que ce soit à la radio ou c'est sur les médias, ils insultent des autorités. Je parle des parents. Tu vois les parents passer toute une journée dans les bars. Quelle éducation vous donnez aux enfants? Quand l'enfant sort de la maison, est-ce que vous arrivez à suivre cet enfant? Le comportement de ces enfants dans les établissements, ça vient de la maison.
D'accord.
Ça vient de la maison.
D'accord. Merci, monsieur Augustin.
Merci à vous, Richard.
Monsieur Richard, merci beaucoup. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est monsieur?
C'est Niamavon.
On vous écoute.
Oui, je remercie aussi monsieur Tchadja qui a su dire que les élèves n'importent pas la drogue. Donc ça doit passer par la douane. Vous voyez, même en fin d'année, on a interdit les pétards, mais ça a tourné partout. Et si ça transite, ça veut dire qu'il y a un problème. Et aussi, au niveau de cet enfant, sur les réseaux sociaux, il semble qu'on parle que son parent est un retraité qui a travaillé à la BCAO. Généralement, ce sont les enfants d'écran, là. Et ils se permettent de tout. Sinon, un pauvre enfant, s'il s'aime pas, il est ami d'un enfant de grand pour se positionner comme ça aussi. Comme ils ont consommé la drogue, on les a tous libérés. Hein. C'est pourquoi, entre temps, quand on disait qu'on fait sport de masse pour réduire l'obésité, on sait ceux-là qui mangent bien, qui sont bien élevés comme les porcs de race. C'est eux qui peuvent maintenant se transformer en support politique. On arrive quelque part, on fait comment la campagne, on va construire les industries ici pour la jeunesse. Ce n'est plus sport de santé. Donc, c'est quelque chose comme ça, quoi. Donc, on ne doit pas regarder seulement l'enfant. Il faut que le parent amène cet enfant-là à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Il a un problème. S'il consomme la drogue, ça dit que lui, là, il ne tient plus, il n'est plus homme. On doit le traiter. Merci.
D'accord, merci à vous. Allô?
Oui, allô,
oui. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur?
C'est monsieur Yannick.
Ok, on vous écoute.
Oui, concernant l'éducation en milieu scolaire au Togo, j'ai exhorté monsieur le ministre de ramener le bâton. Parce que avant qu'il ne soit ministre aujourd'hui, c'est le bâton qu'il a corrigé. Mais aujourd'hui, notre génération future, il faut que le bâton recommence. Car bon, c'est ça, moi, je vois.
D'accord. Merci beaucoup. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Ouais, comment vous allez?
Nous allons bien, et vous?
Leurs vœux au plateau. Hein.
Merci beaucoup. Nos vœux réciproques. C'est monsieur?
Monsieur Senghor, l'évangéliste Senghor. Hein.
D'accord. On vous écoute.
Bon, moi, ce que j'ai à dire à ce propos, il faut, comme l'a dit mon frère qui vient d'appeler, que le bâton revienne. Aujourd'hui, si vous voyez nos autorités, qui comprennent même le président Faure Gnassingbé, c'est le bâton qu'il a redressé. Il est devenu là où il est aujourd'hui. Même, vous savez, la Bible recommande. Nous sommes tous des chrétiens. Allez lire dans Proverbes. La Bible recommande aussi qu'on doit utiliser le bâton. Vous voyez, notre Dieu lui-même, hein, il faut corriger les enfants. Donc, si aujourd'hui, on se dit que on ne doit pas taper les enfants, nous ne sommes pas aux Occidentaux. Vous voyez, l'éducation des Blancs est tout à fait différente par rapport à l'éducation des Africains, surtout au Togo. Mes frères journalistes, vous-même là, dites-moi, on est un peu en retard à l'école. Mais attendez, peut-être que vraiment le jour là, c'est un problème. Donc, moi, ce que je dirais, il faut que s'il est à l'écoute de M. Kokoroko, il faut qu'il retourne dire qu'il faut taper, mais modérément d'une manière. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire.
D'accord. Soyez bénis. Merci beaucoup. Allô?
Allô, bonjour. Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour. D'accord, d'accord, merci à vous.
Allô,
allô, allô, allô, je crois qu'il est parti. Alors, effectivement, certains ont suggéré que ce jeune soit fessé au mât, comme on a l'habitude de le faire. Allô,
oui, allô, bonjour,
oui, bonjour, allô, 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 je crois qu'il est parti.
Allô?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour le plateau.
C'est monsieur.
C'est Maman Toy, je vous appelle de Pogan.
D'accord, on vous écoute.
Je salue, et si elle l'écoute, elle est la seule femme qui rentre. J'aimerais dire que le bâton revient, c'est vrai. Parce que nos enfants, ça ne va pas. La chicha là,
oui.
C'est plus pire que la cigarette. Il y a un docteur qui a expliqué ça. On doit boucler la boucle de chicha. Parce que ce n'est pas nos enfants qui partent en voyage pour amener. Il faut l'autorité voir ça.
D'accord.
Je vous remercie.
Merci à vous. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Cyril.
Monsieur Cyril, on vous écoute.
Oui, je voudrais intervenir par rapport au sujet lié à la morale.
D'accord.
Je vous ai écouté avec attention et je me demande où est passé le nouveau document sur l'éducation civique élaboré en 2012. C'était un document très, très propre qui couvre tous les degrés de l'enseignement, du préscolaire jusqu'en terminale. Mais apparemment, on a comme l'impression que ce document a été mis dans les placards et la jeunesse est laissée à elle-même dans les écoles. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un élève, je reviens au cas de l'élève de Kara, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un élève qui a suivi son cours d'éducation civique et morale du primaire jusqu'en terminale puisse réagir de cette façon en classe? C'est triste. Il faudrait que les dirigeants du pays puissent prendre véritablement l'éducation de la jeunesse à cœur. Parce qu'il y a un danger qui nous guette dans les années à venir. Il y a trop de délinquance dans la génération actuelle. Il y a trop de délinquance si le gouvernement ne fait rien pour réinstaurer la morale. Strictement, franchement, je crains pour l'avenir du Togo.
D'accord. Merci à vous.
Merci à vous.
Allô? Allô?
Allô, c'est
Canal
FM.
Oui, c'est Canal FM. Vous êtes en direct.
Ouais, je vais passer.
Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur.
Ouais, merci.
D'accord. C'est monsieur?
Oui, bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Ouais. Moi, je veux parler des élèves qui se droguent là.
Oui. Allez-y.
Ouais, s'il vous plaît, je vous en prie, ce sont les enfants des barons même qui amènent ça dans les écoles. Parce que les enfants de pauvres, où ils vont avoir l'argent pour acheter de la drogue. Et d'ailleurs, il y a certaines écoles que je ne veux pas citer aujourd'hui où ces enfants-là sont souvent se droguent, même dans l'enceinte de l'école. Le proviseur les attrape, c'est les parents même qui viennent les libérer. Est-ce que c'est normal ça? Alors, que le ministre fasse les enquêtes pour interpeller tous les directeurs et les donne les consignes afin que tout soit réglé.
D'accord.
Merci.
D'accord, merci à vous. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est le plateau. C'est Armand.
Monsieur Armand, on vous écoute.
Oui, il faut dire que avec la démission que nous sentons, vous l'avez même dit plusieurs fois sur vos antennes, que certains parents ont complètement démissionné. Ce qui fait que les enfants sont devenus vraiment je ne sais pas comment dire, il y a un vrai problème. C'est-à-dire la morale est complètement par terre, comme on dit. Il va falloir que les autorités, comme ils sont en train de le faire, qu'ils puissent progressivement appliquer à la lettre les règlements intérieurs des établissements. Un enfant qu'on surprend avec des drogues, avec des agissements autres que ce que le règlement intérieur dit, on n'a qu'à lui appliquer la loi. Maintenant, quitte aux parents de venir à la rescousse, on verra ce qu'ils auront à dire. Parce que les gens doivent savoir qu'ils doivent prendre soin de leur enfant. Parce que ce n'est pas à l'État maintenant de venir, je ne sais pas comment dire, bénéficier ou bien, je ne sais pas. C'est les parents, dans un premier temps. Et maintenant, dans un second temps, l'État va mettre le cadre pour mieux orienter nos enfants.
D'accord.
Vraiment, il faut appliquer la loi. Merci.
Merci, M. Armand. Nous recevons un dernier auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
Bonjour. C'est oui. Ali.
Monsieur
Ali.
Monsieur Ali, on vous écoute.
Oui, félicitations au plateau.
Merci.
Retenons ceci, dans aucun document du droit de l'homme, on n'a pas dit de corriger l'enfant. On dit de ne pas corriger l'enfant avec amertume ou énervement au point de le blesser. Mmh. Vous voyez la nuance? Vous pouvez corriger votre enfant avec le bâton, mais de façon modérée. Et ne pas le blesser pour endommager sa santé ou sa psychologie. C'est ça qui est recommandé dans les documents de droits humains. C'est pourquoi il y a la substitution de punition. Maintenant, concernant la punition de l'élève de Kara, je me pose la question, on punit un enfant pour l'améliorer ou pour le détruire. Mais tel que la lutte que ça prend, là, c'est dans le sens de destruction de l'enfant. Là. Or, un enfant du Togo qui manque, le Togo n'est plus au complet. Il faut retenir ça. Et il n'est pas loin de la zone que nous devons protéger. Qu'est-ce qu'il montre qu'il est seul? Et si on le récupérait, qu'est-ce qu'il va devenir? En dehors de ça, par rapport à la drogue, oui, ce qu'on a sous la main, premièrement, que beaucoup ne connaissent pas, c'est le sucre, surtout le blanc, là, qui est une forme de drogue que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est dangereux au moment où les autorités classent les drogues en licite et illicite. Drogue, c'est drogue. Ça va au même niveau du cerveau et détruit l'homme à partir de là. Donc, il suffit de bien cadrer notre toile.
D'accord.
Comme les carburants, là. C'est l'entrée qui doit être contrôlée. Et non les utilisateurs qui doivent être combattus. C'est l'entrée.
D'accord.
C'est ça qui est nécessaire.
Ok. Merci, monsieur Ali.
Merci.
Bonne journée à vous. Nous mettons donc fin aux appels. Merci à tous ceux qui ont appelé dans ce numéro. Alors, avant les cartons, un article dans Canal D, Libération des 46 militaires ivoiriens. Un triomphe diplomatique pour le Togo. Les raisons, Robert Doucet, l'homme clé, quelle retombée. Alors, Jean-Légan Polorigny, un artisan de cette libération qu'on n'a pas beaucoup cité, c'est Robert Doucet. Il était sur tous les fronts et vous avez tenu à relever cela dans votre article.
Effectivement,
le micro, ok, allez-y maintenant.
Oui, il ne faudra pas passer sous silence que si la libération des 46 militaires est effective le 6 janvier dernier, c'est que en background, il y a Robert Doucet qui a été vraiment un homme clé, un homme qui a fait vraiment des allers-retours entre Lomé, Bamako et Abidjan, autant qu'on ne peut en dire. Donc, dans cet article, nous avons également consacré une part au travail qu'il a fait pour la libération des 46.
Nous avons également expliqué le pourquoi. Est-ce que
vous avez un petit souci avec le micro? Oui, allez-y maintenant.
Oui, je disais que dans l'article, pourtant, nous avons expliqué pourquoi est-ce que la médiation togolaise a réussi.
Oui, allez-y.
Oui, mais pourquoi la médiation togolaise a réussi, à valider par Bamako et Abidjan. Et en dernier ressort, il faut dire que le chef de l'État, Fonia Singbe, est celui qui sort, ma foi, le grand gagnant de cette histoire, parce que son leadership, sa notoriété et son statut de médiateur ont été confirmés et il est en quelque sorte aujourd'hui devenu incontournable dans la région ouest-africaine pour la CEDEAO notamment.
D'accord. Merci Jean Le Grand Polori. Merci à vous tous. Nous passons à l'étape des cartons. Je commence avec vous, Magloire Teko.
Carton, d'accord. Ben, quel carton? Je crois que ça va être un carton un peu jaune. On va dire au gouvernement, surtout lié au sujet de la jeunesse dont nous venons de te parler. Et quand vous scrutez un peu l'intervention des auditeurs, beaucoup ont fait cas, n'est-ce pas, à l'interdiction du bâton dans les établissements scolaires. Je reviens là-dessus pour dire, on l'avait dit en début d'émission, la culture occidentale ne rime pas forcément avec la culture africaine, les réalités africaines. Chez nous, notre culture, c'est aussi s'adresser aux propres, les enfants. Le bâton n'a jamais tué personne. Et je suis convaincu, même le chef de l'État, Fonya Singbe, lorsqu'il était élève, avait goûté, n'est-ce pas, au bâton. Et ça ne l'a jamais tué, les ministres, nos parents, nous-mêmes. Mais parce que il y a l'amour de droit de l'homme, qu'il faut interdire le bâton dans les établissements. Et vous voyez ce que ça cause. Donc, carton jaune au gouvernement sur cet aspect-là pour les amener à repenser, n'est-ce pas, cette pédagogie, cette manière d'instaurer la discipline dans les établissements scolaires, beaucoup plus en les incitant à remettre cette théorie de bâton, mais peut-être de façon remodelée pour que ça rime avec les réalités de l'heure.
Sans exagération.
Sans exagération, surtout. Bien entendu.
D'accord. Michel Tchadia, votre carton.
Je n'ai pas de carton. Bon appétit à tous ceux qui nous ont écoutés.
Ok. Merci beaucoup. Jean Legrand Polorini.
Je n'ai pas de carton. Juste revenir en quelques secondes sur le sujet de l'élève. Vous savez, quand vous voyez la vidéo, on a comme l'impression que l'image de l'enseignant est dégradée devant les élèves. Mmh. Je voudrais vraiment que l'État essaie de revaloriser l'image de l'enseignant devant les élèves, parce que c'est comme si pour certains élèves, l'enseignant ne vaut plus rien au vu de plusieurs interdictions. Mmh. Vous voyez un peu. Et il faut que ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ceux qui sont au haut de la société, soient des modèles pour nos élèves aujourd'hui. Mmh. Parce qu'on dit que un poisson ne peut pas accoucher un animal. Donc essayons, autant soit peu, qu'on soit dans la société, qu'on soit des modèles pour les jeunes générations qui sont en train de venir, parce que la société est en train d'être malade et que l'État vraiment veille que nous prenons la mesure de la chose, parce que les années à venir ne risquent pas d'être bonnes si aujourd'hui, vraiment, nous ne recadrons pas beaucoup de choses.
D'accord, surtout revoir l'effectif dans les classes, parce que quand vous voyez la vidéo, vous voyez qu'il y a un pléthore d'élèves dans la salle, ça va être difficile à gérer.
Effectivement, voilà. Et vraiment, il faut qu'on réinstaure la sanction, les corrections au niveau des élèves, parce qu'on dit corrige l'enfant et il suivra la voie qu'il doit suivre.
D'accord. Ouais. Merci à vous tous. Michel Tchadia du journal Ouara les Vainqueurs, Magloire Teco de Flambeau des Démocrates et Jean Legrand Polorini du journal Canal D. Je suis Fousseni Saïbou. La technique était assurée par Michel Tomega. Mise en ligne, Jérôme Akoucha. À très bientôt.